Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration, disons, assez fascinante.
Oui, un sujet qui peut sembler un peu étonnant au premier abord.
Exactement. On va parler du lien entre la psychanalyse freudienne et, tenez-vous bien, la théorie de l'optimisation qu'on retrouve en neurosciences et en intelligence artificielle.
Un grand écart apparent.
C'est ça. Et on s'appuie pour ça sur un essai, je trouve, très stimulant de Paul Jorion.
D'accord.
Alors, notre but ici, notre mission, si on veut,
oui,
c'est d'essayer de voir comment les idées de Freud, son économie psychique, là...
Oui, cette idée de gestion d'énergie, de minimisation du déplaisir.
Voilà. Comment ça, ça anticipe peut-être des concepts très modernes. Je pense au principe d'énergie libre de Carl Friston.
Ah oui, Friston. Incontournable en neurosciences computationnelles, humain ou artificiel, comme un système qui cherche à s'optimiser.
C'est l'idée générale, oui. L'esprit comme une machine à optimiser en quelque sorte.
Ça interpelle.
Carrément. La psychanalyse, qu'on voit souvent comme très qualitative, très interprétative, vue comme une sorte de précurseur de modèles mathématiques de l'IA.
Bon, déballons ça, comme on dit.
Allons-y. Alors, pour commencer, il faut se rappeler que Freud, déjà en 1895, c'est pas hier.
Non, effectivement.
Dans son esquisse...
C'est ça, l'esquisse d'une psychologie scientifique.
Il parlait déjà de l'activité psychique comme d'un effort pour décharger une quantité.
Une quantité d'énergie, oui.
Et pour réduire le déplaisir. Exactement. Bon, il n'avait pas les outils mathématiques qu'on a aujourd'hui, c'est sûr.
Non, bien sûr.
Mais l'intuition fondamentale, cette gestion d'énergie interne, elle était déjà là.
Et c'est là que le parallèle avec Friston devient vraiment intéressant. Son principe d'énergie libre, le PEL.
Oui, expliquez-nous ça, simplement. Pas toujours évident, Friston.
Non, c'est dense. Mais en gros, le PEL, c'est comme une règle de base pour tout système vivant qui s'auto-organise. Une cellule, un cerveau, une société même.
D'accord. Et cette règle, c'est quoi?
C'est de minimiser la surprise, ou plus techniquement, l'énergie libre variationnelle. Mais l'idée, c'est vraiment de réduire l'écart entre ce qu'on s'attend à percevoir...
Nos prédictions internes, en quelque sorte.
Tout à fait. Et ce qu'on perçoit réellement via nos sens. Moins il y a d'imprévus, de décalages, mieux le système fonctionne, plus il est stable.
Et comment le cerveau fait ça?
Alors, il ajuste constamment ses modèles internes, ses connexions. Un peu comme s'il dévalait une pente sur une sorte de paysage énergétique mental.
À l'image du paysage.
Oui. Il cherche les points les plus bas, les états où la surprise est minimale. Et cette descente, c'est ce qu'on appelle mathématiquement une descente de gradient.
La fameuse descente de gradient.
Et ce qui est fascinant, c'est que c'est exactement, mais alors exactement, le même principe que celui utilisé par les IA pour apprendre.
Ah oui?
Oui, les réseaux de neurones artificiels, ils ajustent leur poids, leurs paramètres, pour minimiser une fonction d'erreur. En fait, ils descendent eux aussi la pente de l'erreur. C'est la même logique mathématique.
D'accord. Là, le parallèle technique cerveau-IA est assez clair. Mais comment on relie ça concrètement au concept freudien? J'avoue, le saut vers un symptôme névrotique ou le refoulement.
C'est là que ça devient audacieux, c'est vrai. Mais c'est la proposition de Jorion. Prenez les symptômes névrotiques.
Oui.
On pourrait les voir comme des minima locaux sur ce paysage énergétique.
Des minima locaux, c'est-à-dire?
Ce sont des états stables, des creux dans le paysage où le système peut s'installer. Mais ce ne sont pas les points les plus bas possibles, pas les états optimaux.
Comme une mauvaise habitude, en somme. On s'y installe, c'est stable, mais c'est pas idéal.
Exactement. L'erreur de prédiction sous-jacente, le conflit psychique, si on veut, il est toujours là. Le système a trouvé un point de repos, mais un repos sous-optimal. C'est un peu comme une IA qui serait coincée dans une solution pas trop mauvaise, mais loin d'être la meilleure possible.
Intéressant, et pour la rumination obsessionnelle, c'est penser en boucle.
Ah, la rumination, ça pourrait ressembler à de cycles limites. Le système tourne en rond près de zones un peu instables du paysage, des sortes de cols ou points de sel.
Des points de sel?
Oui, des endroits où c'est plat dans une direction, mais pentu dans l'autre. Le système n'arrive pas à trouver une pente claire pour descendre, il oscille, il reste piégé.
Et le refoulement alors? Le gros morceau chez Freud?
Pour le refoulement, l'interprétation serait celle de termes de pénalités extrêmement élevés.
Des pénalités, comme en IA.
C'est ça. Certaines représentations, certaines pensées deviennent si coûteuses, si anxiogènes, si conflictuelles pour le système qu'elles sont activement évitées. Elles sont maintenues hors de la conscience parce que les explorer coûterait trop cher en énergie psychique.
Le système apprend à ne pas aller là.
Voilà, il apprend à éviter ces chemins mentaux jugés trop chers, trop dangereux, en quelque sorte.
Du coup, la thérapie psychanalytique, vue sous cet angle, ça change un peu la perspective, non ?
Complètement. L'intervention du thérapeute, que ce soit par l'interprétation, l'association livre, l'analyse des rêves, des lapsus, tout ça,
oui,
ça agirait comme une source de perturbations contrôlées.
Ou de bruit productif.
Du bruit, mais productif. Oui. L'idée, c'est que ce bruit, cette intervention, vient secouer un peu le système. Ça peut remodeler légèrement le paysage énergétique. Ça peut aider à, disons, franchir le bord d'un minimum local.
Sortir de l'ornière, quoi.
C'est ça, sortir d'une ornière dépressive, par exemple, ou briser un cycle de rumination, ou encore réduire le coût énergétique associé à une pensée refoulée pour qu'elle puisse être examinée.
L'objectif final étant ?
D'atteindre des états plus stables, globalement moins coûteux en énergie. Un apaisement, en somme. D'ailleurs, des chercheurs comme James Hopkins ou Pezzolo et son équipe font explicitement ce lien aujourd'hui. Ils voient vraiment le travail analytique comme une forme de résolution d'erreurs de prédiction.
C'est assez fou comme rapprochement quand même. Mais alors, concrètement, pourquoi c'est important de faire ce pont ? Juste une curiosité intellectuelle ou il y a plus ?
Non, on pense qu'il y a des enjeux bien plus profonds. Il avance en gros 4 raisons principales.
D'accord, voyons ça. La première point ?
Premièrement, ça permettrait une certaine unification conceptuelle. On pourrait enfin dépasser cette vieille opposition un peu stérile, vous savez, entre la thérapie par la parole, vue comme subjective, molle.
Oui, et les sciences dures du cerveau, le LIA.
Exactement. Peut-être qu'au fond, on parle de phénomènes similaires, mais avec des langages différents. Ça ouvre un dialogue.
D'accord. Unification. Deuxième point ?
Deuxièmement, un effet de levier quantitatif. Des concepts freudiens qui sont parfois un peu flous, disons-le.
Comme la pulsion, la résistance.
Oui. Eh bien, ils pourraient gagner en précision. On pourrait peut-être les traduire en termes plus opérationnels, voire mesurables.
Ah oui ? Comment ?
Par exemple, la force d'une attente ou d'une croyance pourrait être vue comme une pondération de précision dans un modèle bayésien. La résistance comme l'influence de règles internes, des principes premiers inhibiteurs. L'apaisement recherché en thérapie comme l'atteinte d'un minimum global d'énergie.
Donc ça ouvrirait la porte à la modélisation, à des tests empiriques plus rigoureux de certaines idées psychanalytiques.
Potentiellement, oui. C'est l'espoir. Troisième raison, une traductibilité réciproque.
Entre IA et psychanalyse.
Oui. Comprendre comment l'esprit humain se coince dans des schémas répétitifs, ces minima locaux, ces cycles dont on parlait. Ça peut nous donner des idées sur pourquoi les algorithmes d'IA parfois échouent, se bloquent ou développent des comportements bizarres, non intentionnels.
Et inversement, l'IA nous éclaire sur la psyché.
Oui, les outils de l'optimisation, cette vision en termes de paysage énergétique, ça offre un nouveau regard, une nouvelle grille de lecture pour la dynamique des pathologies mentales.
D'accord. Et la quatrième raison ?
La quatrième, c'est le potentiel d'innovation clinique.
Ah, là ça devient concret.
Oui. Imaginez qu'on arrive à cartographier plus finement les symptômes sur des caractéristiques précises de ce paysage. La profondeur d'un bassin dépressif, la courbure d'un point de sel lié à l'indécision.
On pourrait faire quoi avec ça ?
On pourrait envisager à terme de nouveaux outils, peut-être des IA qui aident au diagnostic psychologique, ou même, soyons fous, des systèmes capables de suivre la dynamique psychique en temps réel pendant une séance, entraînés sur d'énormes quantités de transcriptions de thérapie.
Des LLM spécialisés en thérapie en quelque sorte.
Pourquoi pas ? Ou des outils de visualisation pour le thérapeute et le patient. Pour résumer l'idée générale, la psychanalyse aurait eu l'intuition qualitative géniale, l'IA fournirait la preuve de concept technique, et les neurosciences confirmeraient que le cerveau fonctionne bien comme une sorte de machine à optimiser, à descendre des gradients.
Revenons sur cette image du paysage énergétique mental. Elle est très parlante. Faut imaginer comme une carte en relief, c'est ça ?
Avec des vallées, des sommets, des cols.
Tout à fait. Et l'esprit, où le système cognitif se déplace sur cette carte en cherchant toujours le chemin le plus facile, la pente descendante, vers les points les plus bas, les minima.
Et les formes de ce paysage, elles correspondent à des états psychiques.
C'est l'analogie proposée. Les bassins, les vallées profondes, seraient des minima locaux stables.
L'exemple type, la rumination dépressive. C'est comme être coincé au fond d'un puits. Toutes les pensées semblent ramenées au même noyau sombre. Difficile d'en sortir.
Et la thérapie ? Dans ce cas.
Elle chercherait à injecter de l'énergie, si on veut. Une nouvelle perspective, une expérience correctrice. Quelque chose qui aide à franchir le bord du bassin, à remonter la pente.
D'accord. Et les points de sel, ces cols de montagne?
Eux, ils sont plus instables. C'est plat dans une direction, mais ça descend des deux côtés dans l'autre. Un algorithme peut y rester coincé, hésitant.
Et psychiquement?
Ça évoque l'ambivalence obsessionnelle. Le fameux « je veux faire ça, mais si je le fais, alors X ». Mais si je ne le fais pas, alors Y. Le système est pris entre deux feux, deux pentes opposées. Il n'arrive pas à choisir une direction de descente claire.
La thérapie ferait quoi, là? Essayer de déformer le col?
Un peu ça, oui. Modifier la courbure locale du paysage pour rompre la symétrie, créer une pente plus favorable et permettre au système de bouger, enfin.
Et les zones interdites? Le refouler? Vous disiez des murs ou des falaises?
C'est ça. Des zones du paysage rendues artificiellement très coûteuses en énergie, comme des précipices inenfranchissables, en IA, on utilise des fonctions de pénalité pour ça, pour dire à l'algo « ne va surtout pas là ».
Et psychiquement, c'est le contenu refoulé.
Oui, les pensées, souvenirs, affects jugés inacceptables ou trop douloureux. On ne les voit pas directement sur la carte, mais on devine leur présence par les détours que prend la pensée.
Les hésitations, les silences?
Oui, ou les lapsus, quand on s'approche un peu trop près de la falaise. La thérapie viserait alors à abaisser progressivement ces murs, à rendre la zone moins coûteuse à explorer.
Et le bruit productif dont on parlait tout à l'heure, comment ça s'insère là-dedans?
Ah oui, l'idée qu'un peu de hasard, de bruit peut être utile, en IA c'est connu, on injecte parfois un peu d'aléatoire.
Avec des techniques aux noms barbares comme la stochasticité, l'annealing.
Oui, peu importe les termes techniques. L'idée, c'est d'aider l'algorithme à ne pas se coincer bêtement dans le premier creux qu'il trouve. Ça l'encourage à explorer plus largement le paysage des solutions possibles.
Et chez l'humain, ce bruit bénéfique, ce serait quoi?
Peut-être les rêves, qui semblent remanier, rebrasser nos souvenirs de façon un peu chaotique pendant la nuit. Ou même le rire, parfois, qui peut soudainement briser un récit trop rigide, trop sérieux.
Une sorte de réinitialisation.
Ou une perturbation qui ouvre de nouvelles voies. Et en thérapie, une interprétation de l'analyste, une question inattendue, ça peut agir comme ça. Une secousse calculée, appliquée au bon endroit, au bon moment, pour aider le système à basculer vers un état plus adapté, plus bas en énergie.
Donc si je comprends bien, le progrès en thérapie, ce serait pas une montée linéaire et tranquille?
Probablement pas, non.
Mais plutôt une série de sauts, de transitions parfois abruptes, entre différents états sur ce paysage mental complexe.
C'est une vision beaucoup plus dynamique, oui. Et ça souligne quelque chose d'important sur l'acte de parler lui-même.
C'est-à-dire?
Quand on parle, quand on met des mots sur son vécu, ce n'est pas juste un acte descriptif neutre. C'est une action en soi.
On agit sur notre propre esprit en parlant.
D'une certaine façon. Parler, c'est tracer activement un chemin sur son propre paysage intérieur. Et ce faisant, à chaque mot, à chaque phrase, on modifie potentiellement ce paysage, même légèrement. On ne fait pas que décrire les vallées et les murs, on participe à leur reconfiguration.
Fascinant. Si on revient spécifiquement sur le refoulement comme zone interdite, Freud utilisait cette image, je crois, du chemin de montagne.
Oui, l'analogie du chemin alpin qui devient impraticable au printemps à cause d'un torrent. Ça oblige le randonneur à faire un détour long, escarpé, épuisant.
Et ce détour épuisant, c'est le symptôme névrotique.
Exactement. Eh bien, si on retraduit ça dans le langage de l'optimisation,
oui.
L'idée devient très éclairante. Le censeur freudien, cette instance qui interdit l'accès à certaines pensées, n'est plus forcément une entité active, une sorte de policier interne. Ça peut être vu comme une conséquence émergente du coût énergétique.
Comment ça?
Certaines pensées, certains chemins mentaux, sont associés à une pénalité si élevée qu'ils deviennent de facto impraticables. Ils sont épuisants, comme disait Freud, énergétiquement trop coûteux.
Comme les pénalités en IA pour éviter certains résultats?
Précisément. C'est très similaire au terme de régularisation ou de pénalité qu'on met dans les fonctions de coût en IA pour décourager des comportements non souhaités, comme le surajustement ou la génération de contenu toxique. Le système apprend à éviter ces zones, il intègre ce coût élevé, parfois sans même se souvenir de l'interdiction initiale. Le refoulement devient alors une restructuration durable du paysage mental. Certains sentiers sont devenus prohibitivement escarpés.
D'accord. Mais si ces zones sont devenues invisibles, ou du moins inaccessibles, comment on les repère en pratique? Vous parliez d'indices dans le langage.
Oui, ce sont souvent des signaux faibles, mais très précieux pour un thérapeute attentif. Quand une personne évite systématiquement un mot ou un sujet.
L'évitement lexical.
Oui, ou quand elle tourne longuement autour du pot, utilise des circonlocutions.
La circonlocution.
Ou alors les hésitations marquées, les « e », les silences prolongés.
L'hésitation, oui.
Le changement de sujet soudain, la dérive du sujet, ou bien sûr le lapsus freudien classique, le mot qui sort malgré soi.
Le lapsus. 5 exemples clairs.
Voilà. Tous ces phénomènes peuvent être vus comme des indicateurs qu'on s'approche d'une frontière énergétique, d'une zone à coût élevé. Ce sont des moments où le système, en quelque sorte, trahit ses propres contraintes cachées.
C'est vraiment là que ça devient intéressant.
Et ce qui est crucial, c'est que contrairement aux règles de pénalité qui sont souvent fixes, statiques, en IA,
oui.
Ces barrières du refoulement chez l'humain, elles sont plastiques, elles peuvent évoluer.
Elles peuvent changer.
Oui, elles peuvent s'éroder avec le temps, avec de nouvelles expériences. Par exemple, en thérapie, une exposition répétée à une idée anxiogène, mais dans un cadre sécure, peut progressivement en diminuer le coût.
Abaisser le mur.
C'est ça. Mais à l'inverse, elles peuvent aussi se renforcer, par exemple après un nouveau traumatisme. On pourrait presque imaginer modéliser ça avec des équations différentielles qui décrivent l'évolution de ces coûts énergétiques. Mais bon, on s'éloigne peut-être.
Restons sur l'idée principale.
L'idée principale, c'est que la thérapie vise à transformer l'indicible en pensable, à rendre certains chemins mentaux à nouveau praticables en abaissant leur coût énergétique. Et ça, ça ouvre une perspective assez vertigineuse, je trouve.
Laquelle ?
Celle d'une science unifiée de la contrainte, une science qui pourrait relier les mécanismes de l'inconscient humain, du refoulement, et les problèmes d'alignement qu'on rencontre avec les IA avancées.
Le mal-alignement, le skimming, dont on parle beaucoup.
Oui, ces stratégies cachées, ces objectifs déviants que les IA peuvent développer. Peut-être que comprendre comment nous gérons nos propres contraintes internes pourrait nous aider à mieux comprendre et gérer celles des IA.
Fascinant. Si on pousse cette logique d'optimisation encore plus loin, même l'acte tout simple de parler, de formuler une phrase, ça devient une sorte de calcul complexe, non ?
Absolument. Parler de manière fluide, comme on le fait là, c'est en fait un exploit d'optimisation en temps réel. On doit jongler en permanence avec plusieurs objectifs, plusieurs contraintes, qui sont parfois contradictoires.
Quels objectifs, par exemple ?
Il y en a au moins 3 principaux. Premièrement, l'adéquation sémantique. Il faut réussir à transmettre le sens qu'on a en tête.
Le contenu.
Oui. Même si, comme le souligne Jorion de façon intéressante, on prend souvent pleinement conscience de ce sens précis au moment même où on le formule. C'est pas toujours clair avant de parler.
Ah oui, c'est juste. D'accord. Sens, deuxièmement.
Deuxièmement, l'adéquation syntaxique. Il faut que la phrase soit grammaticalement correcte, qu'elle respecte la structure de la langue.
La forme.
C'est ça. Et troisièmement, l'adéquation pragmatique. Il faut que ce qu'on dit soit adapté au contexte, à la situation, à notre interlocuteur.
L'adaptation sociale, en quelque sorte.
Tout à fait. Sens, forme et contexte. Et parler fluidement, c'est réussir à trouver un équilibre optimal entre ces 3 exigences à chaque instant. C'est un vrai défi d'optimisation multi-objectif, comme on dit en IA. Chaque mot choisi est un compromis.
Et du coup, les ratés de la parole, quand on bégaye, qu'on cherche nos mots, qu'on fait un lapsus, ou qu'une blague tombe complètement à plat.
Oui.
Ce seraient des moments où cet équilibre est rompu, où l'optimisation a échoué localement.
C'est une façon très pertinente de le voir, oui. Chaque type de panne pourrait refléter un déséquilibre dans la pondération de ces contraintes.
Par exemple.
Un problème syntaxique, une répétition, une phrase qui s'en mêle, pourrait indiquer un blocage sur la dimension grammaticale. Peut-être un bassin d'attraction grammaticale trop peu profond, on en sort trop vite.
D'accord. Et une gaffe sociale ?
Une maladresse pragmatique, la blague qui tombe à plat, le commentaire déplacé, suggérerait une mauvaise évaluation de l'ambiance sociale, du contexte.
Et l'imprécision ? Le mot qui vient pas.
Un problème sémantique. Une substitution de mots, une difficulté à exprimer clairement une idée, montrerait une difficulté à attendre le sens visé. Peut-être parce que le chemin sémantique est trop coûteux ou mal défini. Le sens est alors un peu bricolé.
Donc, chaque type d'erreur nous renseigne sur la façon dont le système pondère ses différentes contraintes à ce moment-là.
C'est l'idée. Un poids mal ajusté, quelque part, dans l'optimisation sous-jacente.
Et si on suit cette logique, les interventions d'un thérapeute ou même d'un coach vocal, d'un prof d'art oratoire,
oui.
Ça pourrait être vu comme des tentatives d'ajuster ses poids, d'aider la personne à mieux naviguer ce paysage complexe de la parole.
Exactement. On peut réinterpréter certaines techniques courantes sous cet angle.
Par exemple ?
Quand un thérapeute demande une clarification, qu'entendez-vous par là ? Vous voulez dire que... Il aide à linéariser localement le paysage sémantique. Il accentue l'importance du sens précis.
Il augmente le poids de la contrainte sémantique.
Voilà. Quand on aborde un sujet délicat très progressivement en thérapie, on module la taille du pas pour la contrainte pragmatique. On gère l'adaptation sociale. Des exercices de diction ou d'élocution dirigée, ça peut être vu comme un recalibrage des poids syntaxiques pour améliorer la fluidité de la forme.
Et le feedback ? Dire à quelqu'un comment ses paroles sont perçues ?
Ça, c'est un ajustement direct de la pondération de l'adéquation pragmatique. Ça module la sensibilité au contexte social. C'est comme si on recalibrait le système d'optimisation en lui donnant de nouvelles informations sur les pentes du paysage social.
C'est frappant de voir à quel point ces parallèles s'étendent aux défis actuels de l'IA générative, les grands modèles de langage, les LLM.
Ah oui, tout à fait.
Eux aussi, ils doivent jongler en permanence entre des contraintes similaires, non ? Produire un texte qui soit...
Oui, qui soit grammaticalement probable, statistiquement cohérent avec la langue.
La syntaxe.
Mais aussi fidèle à la question posée, à l'information demandée.
La sémantique, la fidélité.
Et de plus en plus, on leur demande d'être acceptables socialement, non toxiques, prudents.
La pragmatique, gérée souvent par le fameux RLHF, l'apprentissage par renforcement à partir de feedback humain.
Exactement. Les LLM sont aussi des systèmes d'optimisation multi-objectifs qui essaient de trouver le meilleur compromis entre ces différentes exigences.
Et leurs ratés font écho à nos propres difficultés de parole.
C'est ça qui est troublant. Un modèle qui refuse systématiquement de répondre à des questions légitimes, par excès de prudence.
Les refus excessifs.
On pourrait dire qu'il a une pénalité d'acceptabilité, une contrainte pragmatique qui est réglée beaucoup trop fort. Ça écrase les autres objectifs.
Et à l'inverse, le modèle qui hallucine, qui invente des faits.
Lui, il privilégie peut-être trop la fluidité syntaxique, la cohérence statistique du texte, au détriment de la fidélité sémantique, de la vérité. La contrainte sémantique est sous-pondérée.
La clé, comme pour nous, c'est le bon équilibre.
Oui, et surtout cet équilibre doit probablement être dynamique. Adaptatif. Il n'y a pas un seul bon réglage pour toutes les situations.
Chez l'humain, qu'est-ce qui module cet équilibre jauge ?
Plein de choses. Notre état émotionnel, la fatigue, mais aussi, et c'est crucial, la qualité de la relation avec l'interlocuteur, la confiance. Plus on se sent en confiance, plus on peut être flexible, oser, prendre des risques dans notre parole.
Et pour les IA, on pourrait imaginer quelque chose de similaire ?
C'est une piste de recherche intéressante. Plutôt qu'un réglage de sécurité fixe et rigide, on pourrait imaginer une sorte de calibrage de la confiance adaptatif. Une IA qui ajuste sa prudence, sa créativité, en fonction du contexte de l'interaction, un peu comme nous le faisons. Une sorte d'étiquette relationnelle artificielle, si vous voulez.
Bon, pour essayer de synthétiser un peu cette exploration foisonnante.
Oui, beaucoup d'idées brassées.
Et des centrales qui ressort, notamment des travaux comme ceux de Jorion qu'on a évoqués, c'est que les esprits humains et les systèmes d'IA complexes pourraient au fond partager des principes de fonctionnement fondamentaux.
C'est ça, l'idée qu'ils naviguent tous les deux dans des sortes de paysages énergétiques abstraits très complexes.
Et qu'ils cherchent à minimiser une forme d'erreur, de surprise, d'énergie libre, via des processus qui ressemblent fortement à la descente de gradient qu'on utilise en maths et en IA.
Et dans cette perspective renouvelée, eh bien les vieux concepts freudiens comme l'économie psychique, le refoulement, même l'interprétation des symptômes retrouvent une étonnante modernité, une pertinence quantitative presque.
Avec des bénéfices potentiels qu'on a esquissés.
Oui, rappelons-les peut-être. Une possible unification des savoirs entre psycho, neurosciences, IA, c'est pas rien.
Non.
De nouveaux outils, peut-être, quantitatifs, pour étudier l'esprit humain, ses fonctionnements et ses dysfonctionnements.
Des éclairages réciproques pour mieux comprendre et aligner les IA en s'inspirant de la complexité humaine.
Et puis, qui sait, à terme, peut-être de nouvelles approches thérapeutiques, plus ciblées, plus personnalisées, peut-être même assistées par la technologie.
Alors, pour conclure, peut-être laisser une question ouverte, une pensée à emporter pour ceux qui nous écoutent.
Volontiers.
Si on prend au sérieux cette idée que les esprits humains et les IA complexes fonctionnent vraiment selon des principes d'optimisation similaires sur ces paysages énergétiques, qu'est-ce que ça nous dit ou qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur la nature de la conscience, de l'intentionnalité, voire de la souffrance chez les machines futures ? Est-ce que ces concepts restent exclusivement humains ?
Vaste question. Et dans l'autre sens, est-ce qu'en décryptant plus finement cette physique du non-dit chez nous, les humains, nos contraintes internes, nos zones interdites, nos détours de pensée complexes,
oui.
Est-ce qu'on ne se donnerait pas, par là même, de meilleures clés pour anticiper, comprendre et peut-être mieux gérer les comportements émergents, imprévus, parfois problématiques, des intelligences artificielles que nous sommes en train de construire.
Une sorte de science unifiée des systèmes sous contrainte, qu'ils soient biologiques ou artificiels.
C'est peut-être ça l'horizon fascinant que dessinent ces rapprochements. Une science qui reste en grande partie à inventer.